Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent, ou peut-être l'êtes déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. Quand Laure tombe enceinte, elle ne soupçonne pas qu'elle ne fera pas partie de ces femmes pour qui la grossesse est un long fleuve tranquille. Dans sa tête, la grossesse serait avant tout un bonheur absolu et rien n'aurait pu entraver la joie immense d'accueillir son premier enfant avec son mari Baptiste. Jusqu'à cette première alerte au début du sixième mois qui lui valut une hospitalisation, lui rappelant que non, elle n'était pas invincible et qu'il était temps de lever le pied. Elle s'exécute et pourtant, alors qu'elle entame à peine son septième mois de grossesse, elle se retrouve aux urgences d'un hôpital sur le lieu de ses vacances, où on lui annonce qu'elle va devoir subir une césarienne d'urgence. C'est ainsi que quelques heures après son arrivée à l'hôpital, son petit Basile, né à 31 semaines et 5 jours, se retrouve sous cloche et appareillé de tous les côtés pour finir de se développer. Laure et Baptiste embarquent alors dans le monde de la grande prématurité. Dans cet épisode, Laure nous explique ce jour où tout a basculé et comment un HELLP syndrome et une pré-éclampsie lui ont arraché sa fin de grossesse, transformant un accouchement lointain en un véritable cauchemar. Elle nous rappelle aussi que fabriquer la vie est aussi miraculeux que fragile et que même si on nous dit souvent qu'être enceinte, ce n'est pas une maladie, une grossesse implique aussi une vigilance de tous les instants pour garder au chaud ces petits êtres qui se construisent. Salut Laure et déjà merci de m'avoir contactée pour venir partager ton histoire au micro de Rita. Ça me fait super plaisir. Est-ce que tu peux d'abord te présenter s'il te plaît ?
Bonjour Anissa, donc je m'appelle Laure, j'ai 32 ans. Je suis la maman de Basile, je suis la femme de Baptiste. On est mariés depuis 3 ans. Et je suis kinésithérapeute en maison médicale et je suis spécialisée en périnatalité et thérapeute manuelle. Voilà, ça c'est pour ma petite famille, on va dire. Mais j'aimerais quand même élargir, parce que c'est important pour mon récit, à nos familles élargies, donc nos parents, frères, sœurs et nos amis qui ont été très importants durant notre histoire avec Basile. Et spécifiquement son parrain et sa marraine. Voilà, on a été très fort entourés, donc c'était important pour moi de les citer aussi.
Alors, est-ce que tu te souviens du jour où tu as rencontré Baptiste ? Et bien déjà, depuis combien de temps vous êtes ensemble en fait ?
Alors, je suis avec Baptiste depuis quasiment 12 ans. Donc je l'ai rencontré très jeune, j'avais à peine 20 ans. Et on s'est rencontrés via sa cousine Charlotte, qui était en études de kiné avec moi. Et en gros, elle m'avait dit... Enfin, moi, je sortais d'une relation un peu... Enfin, voilà, qui s'était mal finie. Et je profitais un peu de ma vie, etc. Et puis, elle m'avait dit un jour... « Viens manger chez mon cousin, à XL, ça va être sympa et tout. » Et moi, j'avais dit « Mais non, t'es folle, je vais pas aller chez quelqu'un que je connais pas, ça se fait pas, etc. » Puis finalement, elle m'avait convaincue. Et donc, je me suis retrouvée avec elle à aller à ce dîner. Ça a très bien matché, on s'est bien entendu, etc. Lui, en fait, a pris mes coordonnées, donc mon numéro, via sa cousine. Et moi, j'avais pris son Facebook. Et en fait, lui m'a contactée pour qu'on aille reboire un verre. Et donc, ça s'est fait comme ça. On a d'abord fait un premier rendez-vous au Tavernier. Et puis après, là, il s'était rien passé. Puis il m'a recontactée. On a été remanger un petit bout, toujours à XL, à un petit resto assez sympa. Et puis, il m'a ramenée à mon cote. Et là, on s'est embrassé pour la première fois.
Et la suite de votre histoire, alors ? Comment ça s'est passé après ce premier date ?
Alors, il faut savoir quand même qu'au début, c'était pas évident pour lui parce que moi, je pense que j'avais un peu du mal à m'engager parce que, je sais pas, j'avais peur que ça marche pas ou... Voilà, j'étais un peu réticente et du coup, mes amis peuvent en témoigner. Elles devaient un peu pas me forcer, mais me convaincre d'aller chaque fois au prochain rendez-vous alors qu'on était déjà ensemble, etc. Donc on va dire que pendant un ou deux mois, il a dû un peu batailler pour que je reste, quoi. Bon, au final, il s'avère que, heureusement, parce que c'est une belle histoire. Donc voilà, on a évolué ensemble. Lui a 2 ans de plus que moi, donc il avait 23 ans déjà à l'époque. Et puis ensuite, on a vécu notre histoire, on avait chacun nos cotes, etc. Et puis on a emménagé ensemble quand moi j'ai fini mes études, donc en 2015. 2014. Et puis, il m'a demandé en mariage en 2018, fin 2018. Et on s'est... Donc, nous, on a eu pas de chance un mariage Covid.
À quel moment s'est posée la question du bébé, du coup, dans votre histoire ?
Il faut savoir que Baptiste, il avait envie d'un enfant depuis pas mal... C'est lui qui est venu avec cette idée d'abord. On savait, je pense, tous les deux, qu'on voulait un truc sérieux, de base. Donc, ça, c'était coché. Moi, ça me tenait à cœur de me marier avant d'avoir des enfants. Lui, pas forcément, mais finalement, on l'a quand même fait comme ça. Et en fait, il faut donc quand on s'est mariés et quand il m'a demandé un mariage, lui parlait déjà d'enfants. Donc à l'époque, moi j'avais 28 et lui en avait du coup deux de plus, donc 30. Et moi, je me sentais pas prête. Voilà, j'avais encore envie de vivre pour moi, pour nous, faire des voyages, etc. Et puis, donc après ça, on s'est mariés en septembre 2020. Mais à la base, on devait se marier en juin 2020, donc le gros mariage. Bon, le Covid est passé par là, on a dû tout annuler, refaire nos plans, etc. Et l'idée, c'était que j'arrête ma pilule en juillet. On partait normalement au Japon en voyage de noces. C'était fait un peu exprès du fait qu'on aimait bien cette destination, évidemment, mais aussi parce que c'était safe au cas où je tombais enceinte là-bas. Il n'y avait pas de Zika et compagnie. Du coup, les plans ont tout à fait changé. On a refait un tout petit mariage en septembre. Mais j'ai quand même été voir une gynéco un peu par hasard, parce que moi, je viens pas de Bruxelles à la base. Et donc, mon ancienne gynéco était à Wavre. Et donc, je m'étais dit... Et en plus, elle accouchait pas. Donc, je me suis dit, bon, bah c'est la bonne occasion pour changer, en fait. Donc, je vais chez elle, et en juillet 2020, et elle me dit... Bah écoutez, si vous vous mariez en septembre, soit vous arrêtez votre pilule maintenant, soit plus tard, ça c'est un peu vous qui décidez, parce que je lui avais dit que bon, j'avais quand même envie de profiter de mon mariage, pas être enceinte, voilà, pouvoir boire de l'alcool, etc. Mais on va quand même vous faire une prise de sang de contrôle. Ok, donc on l'a fait. Et elle me dit, voilà, a priori, s'il n'y a rien d'alarmant, bah, je ne vous recontacte pas, reprenez rendez-vous pour septembre, et puis on voit. Donc de juillet à septembre, elle ne m'a jamais recontactée, donc je me suis dit qu'il n'y avait rien d'alarmant, de grave. Donc je décide de continuer ma pilule, finalement. Et là, je vois que Baptiste, ça lui tient très à cœur d'avoir un enfant, parce que je vois sa déception quand je lui annonce que je ne vais pas arrêter tout de suite. Lui, en fait, il était prêt à ce que je l'arrête maintenant en juillet, et quitte à ce que je sois enceinte en septembre, il était un peu triste, et à la fois il me comprenait, mais...
Et donc... toi, en voyant sa réaction, ça te donne envie de changer d'avis ou pas ?
Je suis un peu triste, mais à la fois je suis d'accord avec moi-même, en accord avec moi-même plutôt, parce que je sais pas, je le sens pas maintenant. Donc je venais de fêter du coup mes 30 ans, et je me disais, en fait moi j'ai vraiment envie de profiter, déjà qu'on m'a enlevé mon mariage que je voulais, auquel on a pensé depuis 2 ans, tant pis, on sera que 25, mais j'ai envie d'en profiter à fond, quoi. Puis on se marie, trop chouette fête, machin et tout, et puis là, ben, en fait, au 1er septembre, j'arrête déjà ma pilule. On s'est mariés le 23 septembre, et je me suis dit, bon, là, de toute façon, si je tombe enceinte, c'est pas très grave, si, je serais au pire à 3 semaines d'être enceinte, c'est pas hyper grave, quoi. Donc là, j'arrête au 1er septembre. Lui, trop content. Moi, un peu stressée, mais contente. Je vais voir ma gynéco comme prévu après. Et là, elle me dit, écoutez, votre prise de sang était bonne. Je peux vous annoncer que vous avez déjà fait le CMV et que vous êtes immunisée contre la toxo. Mais par contre, je vois que vous êtes un peu en hypothyroïdie. Et ça, c'est quand même important de le savoir, parce que ça peut être un risque d'infertilité. Donc déjà okay. Là, grosse douche froide. Je me dis, ah ok, elle dit, bon, après vous inquiétez pas du tout, c'est vraiment une valeur à la limite de la normale, mais comme vous avez le désir d'être enceinte, je vais vous médiquer.
Jusque-là, t'avais jamais envisagé ce scénario? Dans ta tête, t'allais vite tomber enceinte, ou t'imaginais ça comment en fait?
J'ai jamais réfléchi, c'est bizarre d'ailleurs, puisque moi je m'occupe dans mon métier de beaucoup de femmes enceintes et après leur postpartum. Pour moi, alors... J'ai eu peut-être de la chance avec mes patientes, mais il n'y en a aucune qui a une grossesse à risque comme moi, ou une autre pathologie, hein, mais voilà, elles allaient toutes globalement bien, elles étaient un peu fatiguées, parfois mises à l'arrêt, mais pas pour des trucs très graves, et elles n'ont jamais eu de problème non plus, en tout cas elles ne m'ont jamais dit, pour tomber enceinte. Et dans mon entourage proche, ça n'a jamais été non plus... Je sais que ça existe évidemment, hein, donc j'avais bien ça en tête, mais je m'étais dit, on verra bien. De toute façon, ça peut mettre jusqu'à 1 an, voilà, on verra quoi. Mais par contre, Baptiste était très stressé. Lui, il avait l'impression qu'il était stérile, carrément. Alors, je sais pas d'où ça sort, mais c'est vraiment dingue. Il revenait souvent avec ça. Il avait vraiment l'impression que si on n'arrivait pas à avoir un enfant, c'était de sa faute, d'office. Octobre passe, pas de bébé. Donc, première déception pour Baptiste, un peu, parce que j'ai eu mes règles et tout ça. Là, il faut quand même savoir que la gynéco m'avait dit que c'était pas... Enfin, que c'était normal parce qu'il faut le temps que le médicament fasse effet. Okay. Donc, moi, franchement, j'étais pas très stressée. Je me disais, bon, voilà. Novembre, toujours rien. Décembre, alors là, j'ai eu mes règles le jour de Noël. Et là, je pensais que j'étais enceinte. Donc, j'étais un peu triste. On était en plein repas de famille, donc le 25, et là je sens un truc couler, je me dis « ça sent pas bon, c'est les règles d'office ». Et donc là je vais à la toilette, effectivement c'est ça. Donc petite déception, je le dis pas tout de suite à Baptiste parce que j'ai pas envie qu'il soit triste le jour de Noël et tout ça. Et puis on fête le nouvel an avec des potes, et là on se bourre la gueule comme jamais, enfin... Pas comme jamais, mais on profite bien. On boit des shots et tout, enfin bref. Et quelques jours plus tard, on voit d'autres potes, dont le parrain de Basile. Et là, Baptiste fait toute une tirade sur le fait qu'il est d'office stérile. Voilà, il a l'impression que ça va jamais marcher. Bon, il est un peu bourré en disant ça, mais on voit qu'il est triste. Je rappelle quand même que ça ne fait que 3 mois qu'on essaye, hein, donc ouais. C'est vraiment rien. Et janvier, c'est un mois de janvier tout bizarre où j'ai plein de pertes de sang, je me sens pas bien. Vraiment, je dis à Baptiste, je crois pas que ce sera ce mois-ci non plus, je sais pas ce que j'ai, mais au point où une fois on va chercher un casque de vélo pour battre dans le centre-ville, et j'ai dû m'asseoir en rue en plein hiver et tout, tellement j'avais des crampes, enfin horribles. Je me souviens très bien de ce jour-là. Et puis arrive la fin du mois où j'étais censée avoir mes règles et je les ai. Et donc là, je me dis. Trop bizarre, est-ce que c'est... je les ai eues avant, mais c'était pas comme d'habitude. Et puis j'étais assez régulière, donc à partir du moment où j'ai arrêté ma pilule, en fait, très vite j'ai retrouvé mes règles naturelles. 1 jour de retard, 2 jours de retard, 3 jours de retard, et là je me dis, bon, je vais quand même en parler à une collègue, on sait jamais, parce que dans la maison médicale il y a des médecins. Donc j'en parle à une collègue, elle me dit, t'es d'office enceinte, c'est peut-être justement la nidification que t'as eue, à ta place je ferai un test. Comme ça, t'es sûre. Et moi, je sais pas pourquoi, j'attends encore. Donc j'ai attendu au final 5 jours de retard. Et je me dis, allez, on va attendre le plus longtemps possible. Je suis quasi sûre que c'est pas ça. Pourtant, allez, on a ce projet, donc je suis pas débile. Je sais que voilà. Finalement, j'achète un test de grossesse, même 2 en fait. Un qui est classique et un qui prédit les semaines où t'es enceinte, là. Et je dis même à la pharmacienne, bon, croisez les doigts pour moi. Et elle se marre. Et là, en fait, c'était bientôt l'anniversaire de mon mec. Du coup, je voulais lui faire une surprise si jamais j'étais enceinte. Ça a tout à fait capoté parce que, en fait, j'ai été faire des courses en même temps et je suis bête, j'ai mis les tests de grossesse au-dessus du sac de course. Donc, il est tombé dessus, je rentre du magasin et là, il voit et dit, oh, tu crois que t'es enceinte? Et donc, je dis... Bah je sais pas, j'ai des doutes, j'ai quand même du retard, mais t'étais pas censé voir ça, enfin voilà, je commence un peu à m'énerver. Et puis je lis la notice et je vois qu'il faut faire le matin pour avoir le taux d'hormones le plus haut. Donc là ça a été une soirée toute bizarre parce qu'on parlait pas beaucoup, on a été se coucher et le matin Baptiste était déjà réveillé, je pense qu'il était déjà en train de turbiner dans sa tête. Et puis, en fait, moi, j'avais pas envie qu'il soit là. Enfin, je voulais faire ça toute seule. Donc, je me levais pas. Et là, il me dit, tu te lèves pas? Non. Et là, je lui dis, va dans la cuisine, prépare le petit déj, j'arrive. Et donc là, trop marrant parce que j'entends qu'il farfouille dans la cuisine, mais il fait pas les bruits habituels. Je sens qu'il est hyper stressé et qu'il prépare pas du tout le petit déj. Et que je vais à la toilette et je fais le test. J'attends. Je crois que c'est les minutes les plus... Enfin non, il y a eu des minutes plus longues dans ma vie après, mais là, c'était quand même un peu stressant. Et en fait, ça s'est très vite affiché, enceinte, 3 à 5 semaines. Et donc là, je me dis, oh putain, c'est vrai, enfin ça y est quoi. C'était une émotion toute bizarre. À la fois, j'étais contente et à la fois, c'est venu vite en fait. Et donc, je crois que dans ma tête, je m'attendais inconsciemment à ce que ça vienne plus tard. Ça devient hyper réel. Enfin, oui et non, parce qu'on n'a pas encore de ventre. On sent rien. Et donc là, j'entends plus de bruit dans la cuisine, donc je sais qu'il attend. Et donc là, j'arrive et je lui présente le test et je dis, bah, ça y est, on va être parents. Mais c'est vrai que pendant les 4 jours qui ont suivi, on était tous les deux un peu sur la réserve, à la fois hyper contents et à la fois un peu stressés de se dire que ça y est, on va devenir parents. C'est parti quoi.
Est-ce que vous réalisez directement ce qui vous arrive?
On a besoin de temps pour digérer les choses parfois. Mm-hmm. Et donc je pense que là c'était tellement énorme qu'à la fois, et lui, il a attendu ça depuis, allez, 2-3 ans, que je crois que là, c'était tellement concret qu'on était tous les deux là, oh punaise, ça y est, quoi. Et puis après, on était hyper contents, hein, c'est pas ça, mais voilà, on est tous les deux un peu comme ça.
Bon, et donc après, vous avez fait la première écho, celle qu'on appelle l'écho de datation. Est-ce que tu te souviens quand c'était
Vers, je pense, début février, mi-février. Et bah, donc, elle explique, là, je vais vous faire probablement une échographie endovaginale, puisqu'on ne sait pas accéder avec l'échographie sur la paroi du ventre
ouais,
au bébé.
Trop petit.
C'est trop petit, quoi. Et ne soyez pas étonnés si on n'entend pas encore le cœur, c'est possible, s'il est trop petit, voilà. Là, je vois Baptiste hyper excité, donc ça y est, il est dans le truc, moi aussi. Et là, c'est vrai que ça devient concret, hyper fort, en fait. Et donc là, ben, on procède à l'examen, et elle se marre, et on comprend pas. Et puis elle dit, mais en fait... il n'a pas du tout 6 semaines, cet embryon, parce que normalement, il faut faire aux alentours de 6 semaines sans aménorrhée. Et elle dit, il a 9 semaines. Et donc, on voit d'ailleurs à l'écran que c'est un beau petit scampi, quoi. Bien vif et tout, on entend bien le cœur. Et donc, moi, je fais un rapide calcul et je dis, mais attendez, ça veut dire qu'il est conçu depuis mi-décembre. Oui. Et donc là, Baptiste devient blême. Il se repense au Noël, au Nouvel An. Mais docteur, c'est hyper... Enfin, ça va pas du tout. Ma femme, elle a beaucoup, beaucoup bu aux fêtes de fin d'année, etc. Et là, elle se marre. Elle dit, bah, écoutez, c'est pas très grave. Tant que vous n'êtes pas mis une grosse cuite, c'est bon. Et là, de nouveau plus blanc. Et je dis, bah, j'ai quand même bu quelques shots, etc. Et puis, elle rigole. Elle dit non, parce que... En fait, au-delà... Il s'accroche à partir de 7 semaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous à partir de ce moment-là. Avant ça, il s'accroche pas, donc il a sûrement pas eu d'échange avec vous. À partir de là, Baptiste a été très stressé sur la bouffe et sur... bah, l'alcool, j'en buvais évidemment pas, mais parfois j'avais envie de juste tremper mes lèvres ou des choses comme ça. Et lui, il a été fort... par exemple, je peux pas manger... bah, des trucs crus, donc type sushi, américain, tout ça. Mais par exemple... Je sais pas, j'étais un peu inconsciente, je me disais « Ah, trop bien, je suis immunisée », donc une fois, je vais à une sandwicherie et je pouvais rien manger sur la carte. Et c'est encore le moment où t'oses pas trop dire parce que t'es pas aux 3 mois, etc. Et donc là, je dis « Hein, est-ce que vous avez du fromage pasteurisé ?» Non. J'ai « Ok ». Et là, je vois sandwich américain et je sais pas pourquoi, je me dis « Bon, je suis immunisée contre la toxo, je peux y aller ». Ben, pas du tout, en fait. Je le prends, je commence à manger et là, une de mes collègues me fait un clin d'œil et me dit « Mais tu peux pas manger ça. Bon, t'as de la chance, c'est une sandwicherie hyper fraîche et tout, donc ça va, mais arrête. » Là, j'avais juste envie de vomir mon truc. À partir de là, je dirais que Baptiste a quand même été un peu stressé, que la grossesse se passe bien. Par exemple, avant l'écho des 3 mois, où on voit, enfin, ils font toutes leurs mesures, etc., il était un peu... pas hyper tendu, mais quand même un peu stressé que ça aille, quoi. Que on n'ait pas un bébé trisomique, ou bien que je chope pas un truc, etc. La médecin nous a revus entre-temps en disant, ben voilà, je vous fais les bons pour la prise de sang, pour voir s'il y a la trisomie, l'échographie, etc., etc. Et là, elle me parle du test pour voir si je suis à risque de développer une prééclampsie, qui n'est pas remboursée, qui coûte 45 euros. Il faut le savoir, mais moi je dis oui. Quitte à faire des tests, autant les faire tous. Celui-là me semble important. Elle nous explique vaguement ce que c'est, mais on comprend pas très bien. Elle nous dit juste qu'en fait, ça peut déclencher une crise d'épilepsie pour la maman en fin de grossesse, pendant l'accouchement. Donc ça peut être grave. Et que, en fait, je suis, si je l'ai, je pourrais avoir beaucoup de tension.
Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ce test ?
En fait, c'est 3 choses. La première, c'est une prise de tension en 3 fois. Puis, ils vont détecter un capteur dans le sang. Donc, pendant la prise de sang, bah, ils vont d'abord voir pour la trisomie, mais aussi ça. Alors, quelle protéine ou quel capteur, je ne sais pas dire, mais voilà. Et un test pipi, quoi. Pour voir s'il y a des protéines dans les urines. Donc, je me rends à Delta, c'est là que j'allais accoucher normalement. Et là, on voit la gynéco-échographe. Donc, elle fait son job et tout ça. Elle dit que le bébé est en parfaite santé. Elle nous dit déjà à 99% sûr quel c'est le sexe. Donc, nous, on veut le savoir, elle nous le dit, c'est un petit garçon. Et là, j'avoue que j'étais un peu surprise. J'étais sûre que j'aurais une fille. Et Baptiste, un mec. Donc, lui était super content. Et moi, j'ai dû faire un petit... Oh, ok. Et puis finalement, bah, je suis hyper contente d'avoir un petit mec, mais c'est vrai que dans ma tête, j'étais sûre d'avoir une fille, tout bêtement parce que j'ai une sœur et que je me disais que je fabriquerais que des filles. Et donc, il va super bien, il grandit bien, voilà, tout est bien proportionné, pas de la clarté nucale est bonne, etc. Puis, je vais faire ma prise de sang dans la foulée et puis je passe dans la salle où on fait la prise de tension. Et là, la première prise, je vois que la gynéco est pas... Elle est restée très pro, mais elle dit rien. Elle dit « Essayez de vous relaxer, ne pensez pas que je suis un médecin, voilà, pensez à votre mari, monsieur, faites des blagues, enfin voilà. » Elle reprend, deuxième prise, de nouveau je vois à sa tête qu'il y a un truc qui cloche, et puis troisième prise, et là elle me dit « Bon, vous êtes à chaque fois à 13,8 voire au-dessus. Est-ce que d'habitude vous êtes sujette à avoir de la tension un peu haute ?» Je dis « Non, pas du tout. » je suis quelqu'un en bonne santé, je fais du sport, etc. Et d'habitude, je suis plutôt à 12,6, ce qui est une tension tout à fait normale, voire un peu moins parfois. Et donc, elle dit « Ok, ben, pas de panique, mais c'est vrai que c'est un peu haut quand même. » Et là, j'avoue que ça a été une première claque, parce que je me disais « Mais attends, moi je suis hyper sportive, en bonne santé, je mange bien, je comprends pas. » Et en fait, donc j'étais à 14 semaines. Normalement, l'éclampsie, elle se développe pas à ce moment-là. C'est après 20 semaines sans aménorrhée. Voilà, est-ce que déjà ça déconne là, je ne sais pas. Bref, on s'inquiète pas trop. On se dit, bon, on verra bien de toute façon ce que ma gynéco me dit. Deux semaines après, on voit notre gynéco qui commence par nous rassurer en disant donc il n'a pas de trisomie, il va super bien, c'est bien un petit garçon, etc. Et elle dit, par contre, je dois vous dire que vous êtes à risque élevé. Ah oui. De développer une éclampsie. Grosse douche froide. Là, franchement, je comprends pas, en fait. Je crois que mon cerveau bug. Et donc là, on lui demande un peu plus d'infos. Mais de nouveau, elle est très floue. En fait, peut-être que comme elle savait que j'étais dans le domaine médical, elle voulait pas m'inquiéter plus que ça. Et elle a pas vraiment expliqué ce que c'était.
Oui, alors que quand tu connais les risques pour la maman et pour le bébé, t'aimes autant quand même savoir un peu à quoi t'attendre, je trouve. Mais du coup, maintenant que t'es passée par là, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste en fait la pré-éclampsie ?
La pré-éclampsie, en fait, c'est le corps de la maman qui ne reconnaît pas le placenta du bébé et donc qui se bat à partir des fameuses 20 semaines contre ce corps étranger. Et le seul moyen de sauver la maman, ben, c'est d'enlever le bébé, en fait.
Oui, et donc, en fait, c'est chez la maman que ça peut entraîner de graves complications, mais pas spécialement chez le bébé.
Pas spécialement, sauf si c'est pris trop tard. Donc, c'est très à risque pour la maman si, effectivement, elle se développe. Et de la manière dont elle se développe, parce qu'il y a plusieurs stades. Et pour le bébé, a priori, il n'y a pas de stress, sauf que les échanges avec le bébé ne sont plus très bons. Et donc c'est pour ça, effectivement, qu'elle me donne de l'aspirine. Elle me dit, voilà, je vous mets sous aspirine, parce que comme ça, on est sûr qu'il grandit bien et grossit bien. Et effectivement, aussi pour la tension, c'est mieux. Donc il y a moins de risques de développer, elle nous le présente comme ça. Il y a moins de risques de développer l'éclampsie. Donc moi, je réfléchis pas, je dis ok, je prends ce médicament, enfin cette aspirine, et ça va aller.
Ouais, donc vous sortez de ce rendez-vous-là plutôt rassurée alors, en fait.
Voilà, y a pas de souci, comme j'aurai cette aspirine, j'aurai pas d'hypertension, ça va aller quoi, je vais arriver à terme ou 37 semaines quoi.
Comment se déroule la suite de votre grossesse alors, maintenant que vous êtes au courant de ce risque potentiel ?
On continue notre petite vie, et puis pour nos 10 ans de relation, on décide d'aller à Étretat. Et là, ça se passe super bien, mais c'est vrai que j'en fais un peu trop, et ça, Baptiste me l'a souvent reproché. C'est comme si, après coup, je me dis qu'en fait, je voulais vivre comme si j'étais pas enceinte. Comme si je voulais me prouver à moi-même qu'être enceinte, c'était pas une maladie. Mm-hmm. C'est ce que j'arrêtais pas de répéter à mes patientes, en plus. Et qu'elles avaient le droit de vivre comme elles l'avaient envie, tout en faisant évidemment attention à elles et à leur bébé, mais... Parce que parfois, on a tendance à surcouver les femmes enceintes. Et moi, ça a le don parfois de m'énerver parce que je suis là, oui, mais bon, ok, on est enceinte, mais on n'est pas des petites choses fragiles, quoi. Et donc, c'est vrai que peut-être que j'en ai fait plus que ce que je devrais avec cette phrase-là en tête.
Mais quand tu dis que t'en as trop fait, tu continues à avoir le même rythme qu'avant? Genre, tu me disais que t'étais sportive, mais t'as continué à faire du sport?
Au début, j'allais parfois courir encore. Donc moi, je faisais du hockey, mais ça, j'ai arrêté. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai arrêté. Et puis, j'allais nager, je faisais du yoga prénatal avec des copines. Mais bon, ça, heureusement, c'était du yoga donné par une kiné. Donc en fait, elle, dès qu'elle a su que j'avais un risque d'éclampsie, elle a tout de suite adaptée. Et il y a des fois où elle me disait de pas venir, en fait. Parce qu'elle, je pense qu'elle savait très bien de quoi il s'agissait. Et donc, de me mettre en sécurité. Mais moi, ça m'énervait, par exemple. Je me disais, mais pourquoi... Enfin, c'est qui, celle-là? Pourquoi elle me dit de pas venir? Ça m'énerve. Enfin, voilà.
Oui, parce que si, ce qu'il faut préciser, c'est que la pré-éclampsie... Au début, en fait, la femme enceinte, elle n'a pas spécialement de symptômes. En fait, c'est au fur et à mesure que la grossesse avance qu'elle va présenter potentiellement des symptômes. Et toi, du coup, à part la tension élevée, est-ce que tu avais d'autres symptômes ?
Non, et la tension, par exemple, était redescendue. Donc, je crois vraiment qu'il y avait l'effet blouse blanche aussi. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, ça allait bien. Et au mois de mai, donc quand on part... c'était le week-end de l'Ascension, donc 18-19 mai, là. Eh bien, tout va bien. Enfin, je me sens un peu plus vite fatiguée que mes autres copines enceintes. Ça, c'est vrai que j'avais noté quand même. Mais j'ai pas compris qu'en fait, c'est parce que c'est mon corps qui se battait et que c'était normal que je sois un peu plus fatiguée. Et on fait ce week-end de 3-4 jours. C'est chouette. On fait des balades à vélo, des balades à pied. C'est vrai qu'on fait beaucoup, un peu par ma faute, mais voilà. Et puis on rentre, je vais au boulot, donc j'avais pas diminué mes heures de travail, j'étais là au mois de mai, donc j'étais au début du sixième mois je pense. Et à un moment, je me sens pas très bien pendant le travail. Donc là je vais voir un de mes collègues et je lui dis « est-ce que tu veux pas juste prendre ma tension ?» Parce que je sais pas, je sens que je vais pas super bien. Et là il te prend et j'ai 14-10. Donc là je sais évidemment ce que ça veut dire. Lui... Il devient tout blanc. Il me dit « Bon, écoute, je vais vérifier. » Parce que lui est médecin généraliste, donc c'est pas son domaine. Mais il a vite vérifié. Il m'a dit « Ok, t'arrêtes tout de suite les consultations. » En plus, j'avais une journée de taré. Tu rentres et t'appelles directement ta gynéco. « Ok, ok, mais bon, je reviendrai demain. » Et là, il me dit « Non, non, tu reviens pas demain. Elle va surtout te mettre en arrêt, là, une semaine, quoi. » Je rentre, j'appelle ma gynéco. Elle me rappelle tout de suite, et elle me dit « Effectivement, je vous fais un certificat, une semaine d'arrêt, ne vous inquiétez pas, c'est sûrement parce que vous avez fait ce voyage, etc. Ça va aller, on se tient au courant. Prenez votre tension 3 fois par jour. »
Ah ok, toi t'avais déjà un tensiomètre chez toi alors ?
Moi j'ai un tensiomètre au cabinet, et par réflexe je l'ai pris avec. Donc je voilà, ça j'ai bien fait, je l'ai repris avec, et je sais m'auto-prendre ma tension. Donc voilà, je le fais 3 fois par jour, elle met du temps à baisser. Ça, ça me stresse un peu. Mais au troisième jour, elle baisse et elle redevient normale. Donc là, je rappelle la gynéco, je lui dis, elle dit « Ok, ben c'est très bien, mais vous restez quand même à l'arrêt jusqu'à la date définie ensemble. » Ensuite, je retourne travailler, ça c'était début juin, et elle me demande de lever le pied. Donc je m'exécute, je fais moins d'heures, mais c'est pas pour ça que je me donne moins. Je vais toujours montrer les exercices, même je me souviens très bien qu'il y a une patiente qui était enceinte du même terme que moi, qui me disait « Mais Laure, arrête de me montrer les exercices comme ça, enfin, c'est bon, je vais m'en sortir et tout. » Donc en fait dans ma tête ça fait pas tilt encore à ce moment-là, alors qu'il y a déjà eu cette alerte-là, qu'il faut que je me calme quoi. Donc voilà, j'ai quand même réduit mes heures, mais je continue à me donner dans mon métier quoi. Et puis il faut savoir qu'à ce moment-là c'était un peu tendu au boulot avec des collègues, et donc là je me suis un peu énervée aussi avec des collègues, ce qui est pas bon du tout, j'aurais dû en fait prendre du recul. Et paf, de nouveau alerte, parce que je vais manger un resto avec une copine aussi enceinte, très bon resto où vraiment il n'y a pas de risque d'intoxication, etc. Et je rentre, tout va bien, et dans la nuit, je vomis, mais ma vie, quoi. Vraiment, je vomis, et en fait, il s'avère que ça peut être aussi un signe.
Et le fait que tu vomisses, t'as direct compris que c'était pas un symptôme classique de ta grossesse.
Je me dis, c'est trop bizarre, parce que d'abord, direct, je pense à indigestion, et je me dis, mais c'est bizarre, parce que ce resto, enfin, c'est un super bon resto, c'est que des produits frais, j'y vais relativement souvent, donc j'ai jamais eu de problème. Ok, on va aux urgences. Surtout que j'avais de la fièvre. Et ça, c'est quand même un signe chez moi qui est pas normal. J'arrive, période Covid, d'office test Covid. J'ai pas le Covid. Ils font aussi à mon mari. Et là, ils font monito, bébé va bien, le cœur est bon. Ils prennent ma tension, elle est bonne. Mais j'ai un peu de protéines dans les urines. Donc là, ils me disent, bon, écoutez, c'est pas une raison pour vous garder, on vous remballe. Et là, je dis, écoutez, non, je ne veux pas être envoyée, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai de la fièvre, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, avec une parce qu'il disait, oui, c'est sûrement une intoxication alimentaire, je dis, oui, mais on ne fait pas de fièvre, enfin, pas à ce point-là, j'avais 39 en plein été, enfin, ça n'a aucun sens, j'ai pas le Covid, j'ai pas la grippe, enfin, je me sentais très bien la veille. Et là, il s'énerve un peu, et ma gynéco, en fait, qui avait été appelée, dit non, vous la renvoyez. Et donc ça, on n'a pas du tout apprécié. Donc là, Baptiste appelle mon père qui est médecin. Et mon père appelle les urgences de Delta en tapant du poing sur la table et en disant « Vous gardez ma fille et vous faites une prise de sang, vous faites tout le nécessaire, vous savez qu'elle est à risque. » Parce que moi, évidemment, je l'ai dit, j'étais avec mon petit carnet, etc. Et puis, ils disent « Bon, ok, on va refaire un test, voilà, on va faire une échographie pour être sûr que le bébé va bien, etc. » Donc là, ils me gardent, ils refont un monito, ils font l'échographie par un gynéco qui était horrible, qui était vraiment pas du tout empathique, qui faisait à peine son anamnèse, qui me disait « Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire ? Parce que là, franchement, je trouve rien. Vous faites d'office une intoxication, vous énervez pour rien. Des patientes comme ça, on en a tout le temps. » Enfin, voilà. Horrible, vraiment. Et moi, ça m'énerve encore plus, quoi. Et Baptiste à côté, évidemment, déjà stressé de base, bah, hyper... angoissée. Ils font quand même la prise de sang. Et là, c'est l'anesthésiste qui me fait la prise de sang parce que la sage-femme, elle n'arrive pas à piquer dans mes veines, etc. Et lui était super sympa. Heureusement, il m'a calmée et tout. Et là, ils reviennent ennuyés et disent « Bon, vos plaquettes ont un peu chuté. Donc, c'est quand même ennuyant, on vous garde. » Là, je dis « Ouf !» Parce que dans la nuit, on reste à l'hôpital et je convulse. Enfin, je convulse pas, mais je... Tu vois, quand t'as beaucoup de fièvre et que tu trembles, donc c'est pas des convulsions, mais... Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, je fais. Et donc là, ils sont un peu stressés quand même. Baptiste appelle les infirmières et elles disent « La prochaine fois que ça arrive, parce qu'elles arrivent trop tard, appelez-nous direct parce qu'on doit faire la prise de sang. »
Et tu disais que Baptiste était stressé. À ce moment-là, il réagit comment ?
Là, il faut savoir que Baptiste, il a déjà endossé son rôle de... Enfin, franchement, il a été un rock pendant toute la suite parce qu'il est resté à l'hôpital, il a aménagé son travail pour rester avec moi... donc télétravail, bon, autant dire qu'il a pas beaucoup télétravaillé, mais il était là. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être rassurée parce que je sentais que ça sentait pas bon. Et puis finalement, la fièvre descend. Donc le lendemain, ça va mieux. Je commence à descendre en fièvre. Mes plaquettes remontent. Et j'ai toujours un peu des protéines, mais ça commence aussi à aller mieux. Donc il me garde au final 4 jours. Et là, le 4e jour, il y a la gynéco du service qui vient dans ma chambre et qui est... Donc j'étais dans le service de grossesse à risque. Oui. Et qui me dit « Écoutez, madame, moi, je suis quand même très ennuyée par votre cas. Est-ce que vous devez partir en vacances ?» Et je dis « Oui, normalement, je dois partir en Toscane avec des amis. » Et là, elle dit « Écoutez, c'est pas possible, vous pouvez pas partir en vacances. Je pense, en toute honnêteté, que votre éclampsie a déjà commencé. Et donc, chaque jour passé est un jour de gagné. Donc, en fait, vous devez vraiment rester au repos, vous arrêtez de travailler, c'est fini. Voilà, maintenant, le maître mot, c'est calme, quoi. » Et moi, je la prends pour une grosse folle. Je comprends toujours pas dans mon cerveau, je me dis mais elle exagère celle-là, je vais mieux, ça y est, en plus rien n'est prêt. Donc moi j'étais vraiment braquée sur le fait que rien n'était prêt, on n'avait rien quoi. On devait encore acheter la chambre, enfin voilà, on n'avait pas, je me souviens qu'on avait juste une poussette et qu'on n'avait pas monté sa table allongée, enfin voilà, il n'y avait rien qui était prêt. Donc dans ma tête je me disais mais non.
Ouais, t'étais un peu dans le déni en fait.
En gros c'est ça, et puis de toute façon c'est trop dangereux pour lui, il n'arrivera pas maintenant.
T'essayais sans doute de te convaincre que ça allait aller et que c'était rien.
Je me disais mais non, mon corps va se battre en fait. Tu vois, je pensais même plus à moi, je pensais que à mon bébé. En me disant, il faut que lui, il reste au chaud, donc de toute façon, mon corps va se battre. C'est comme ça. Donc, on rentre à la maison, et là, on voit dans la foulée ma gynéco le jour d'après. Et elle me dit, bon, écoutez, la Toscane, c'est non, parce que c'est trop loin, les soins médicaux là-bas, c'est pas top. Vous parlez pas l'italien, donc non. Par contre, vous pouvez, si vous voulez, aller à Montpellier, parce que mes parents habitent la moitié de l'année à Montpellier, parce que là, c'est la France, et en plus de ça, votre père est médecin, donc je serai plus tranquille. Mais la condition, c'est que la veille de votre départ, je vous vois et on fait les checks ensemble. On se met d'accord là-dessus parce que moi, je voulais des vacances. J'étais épuisée de mon année où j'avais quand même beaucoup donné. Il y avait eu le Covid dans nos pattes. On n'avait pas pu partir comme d'habitude avant, etc. Et je voulais profiter en fait à deux avant d'avoir ce petit bébé.
Donc là, on est à quel mois en fait ?
Donc là, on était fin juin, début juillet. On partait le 7 juillet ou 8 juillet en vacances. Et ben là, vous finissez votre semaine, vous finissez vos dossiers, mais vraiment cool, quoi. Vous dites à vos collègues de pas vous mettre de pression, en fait, et de, si vous avez des rapports à faire, vous faites vos rapports, mais voilà, vous faites très, très tranquille, quoi. Donc, je m'exécute, et puis, entre-temps, on va acheter cette table à langer. Je vais chez Ikea, je l'achète, et en gros, c'est pas bien, parce que c'est moi qui l'ai portée toute seule et tout. C'est hyper lourd. Alors, certes, j'avais pas beaucoup de ventre, mais j'avais déjà un ventre, j'étais fatiguée, j'ai demandé à personne de l'aide, alors qu'en fait, les gars d'IKEA, ils auraient très bien pu m'aider.
Et Baptiste n'était pas avec toi, alors ?
Non, il travaillait. Okay. Donc lui, il m'avait dit, ne fais pas ça. Moi, je l'ai fait. Mais par contre, c'est lui qui l'a monté. Donc l'après-midi, il est rentré plus tôt, il l'a monté. Moi, j'étais l'assistant, donc je lui passais les boulons et c'est tout. Et il m'a limite attachée au canapé, quoi. Je ne pouvais plus rien faire. Et puis, le soir, il me dit, oh, j'irais bien boire un verre avec un copain. Nos valises étaient faites, tout était prêt. Est-ce que ça t'ennuie ? Je dis non, non, vas-y. Mais les tiroirs de la table à langer n'étaient pas faits. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai montés. Alors, pourquoi je raconte ça ? Parce qu'après, je m'en voudrais beaucoup quand Basile sera né 3 jours après, en fait. Dans ma tête, c'est à cause de ça qu'il est né. Parce que j'en ai trop fait. Et en fait, par la suite, les médecins de Montpellier, parce que du coup, il est né à Montpellier, vont me dire que non. Si, il aurait pu rester un tout petit peu plus longtemps, oui, mais peut-être ça se compterait en jours. Mais voilà, donc je monte ces tiroirs, puis je vais me coucher très tôt, voilà, le lendemain, on voit ma gynéco, tout est au vert, donc pas de protéines dans les urines, tension nickel. Elle m'a pas fait de prise de sang, parce que comme j'en avais fait une à l'hôpital, donc 5-6 jours avant, et tout était nickel, elle s'est dit, bon, bah, c'est que ça doit être bon aussi. Ok, vous partez tranquille.
Et toi, tu te sentais toujours bien à ce moment-là ?
Un peu fatiguée, mais je rentrais dans le 7e mois. J'étais à 31 semaines et quelques jours, puisque, oui, c'est ça, je devais être à 31 semaines et 3 jours. Et puis, donc le lendemain, on prend le train. On m'avait fait exprès de prendre le train pour que je sois bien reposée, etc., que je doive rien faire. J'avais mon tensiomètre avec, mon aspirine, tous mes médocs, blablabla. On arrive, mes parents sont super contents et tout. Et là, mon père prend ma tension 15-10. Donc il dit, bon, écoute, c'est peut-être le voyage, c'est pas grave, va te reposer, on va manger léger ce soir, toi tu fais rien, et demain tu fais absolument rien, voilà. Le lendemain, je me repose, donc le lendemain, on est le 9 juillet, et là, je me sens pas top, malgré le fait que j'arrête pas de dormir, mais je me sens pas bien. Là, mon père prend ma tension une fois, 18-12, ouais, moi je fais la même réaction que toi. Et Baptiste, entre-temps, était parti faire du vélo. Et là, mon père a été franchement top, parce qu'il a pris sa casquette de médecin et pas de papa. Il a rien laissé transparaître. Il savait que ça sentait la merde et que c'était pas bon du tout, mais il a été très calme. Alors que mon père, c'est quelqu'un d'assez anxieux à la base, je pense que là, il s'est dit, en fait, ma fille, elle doit être bien. Le plus possible, il ne faut pas que je l'alerte parce que sinon ça va remonter. On va attendre que Baptiste revienne. Donc il revient. Entre-temps, mon père avait repris ma tension, toujours la même valeur.
Oui, donc ton papa, il fait un peu bonne figure, quoi. Il garde son sang-froid, mais qu'est-ce qu'il te dit concrètement à toi ?
C'est sûrement rien. C'est trop, c'est vrai. On va aller à l'hôpital quand Baptiste est de retour. T'inquiète pas, ils vont te donner un médicament, sûrement un antihypertenseur. Ça va aller. Mais en fait, par la suite, il me disait qu'il savait très bien que ça n'allait pas, puisque une semaine avant, à peine, j'avais fait déjà des trucs pas bons, quoi. Et donc, Baptiste revient, il lui dit, et là, Baptiste est hyper angoissé, à juste titre. Il prend une rapide douche, on prend le taxi. Et là, Baptiste est hyper énervé, parce que le taximan, c'est un mec du Sud, il en fait des tonnes. Enfin, voilà, il comprend pas l'urgence. Et mon père essaye de rester calme, mais il dit quand même au taximan, là, il faut quand même se dépêcher, il faut que ma fille soit vue, quoi. Et donc, finalement, on arrive aux urgences gynéco-obstétriques, au CHU de Montpellier. Heureusement que mon père est médecin et qu'en fait, il connaît très bien les hôpitaux là-bas, parce que à l'époque, il avait voulu travailler là-bas. Et donc, il y a plusieurs hôpitaux, il savait que c'était lui le meilleur pour cette pathologie-là. Donc on arrive, et là, Covid oblige, on ne peut pas être à 3 dans cette salle d'attente. Et donc Baptiste dit, Denis, donc c'est mon papa, est-ce que tu veux bien y aller toi, vu que tu es médecin, expliquer ce que Laure a. Donc on voit la secrétaire, il explique, Et il fait sentir à la secrétaire que c'est assez urgent, en fait. Que là, ça va pas du tout. Évidemment, moi, comme une débile, j'avais pas pris mon carnet de grossesse avec, en me disant que ça irait. Mais je connais ma pathologie par cœur. Donc, j'explique tout dans les détails, toutes mes valeurs. Enfin, je peux tout réciter. Ça, ça a aidé. Et puis, on attend. Et là, en fait, je sens que ça sent pas bon parce que je vois qu'il y a d'autres femmes enceintes qui sont là, qui sont plus enceintes que moi, qui ont l'air d'accoucher. Et en fait, je suis prise avant elles, alors qu'elles étaient là avant moi. Et donc là, ils m'emmènent dans une salle, ils me font un test Covid de nouveau, et là, j'ai pas le Covid, heureusement. Ils reprennent ma tension, je suis à 20-13. Et je savais même pas que ça existait.
Mais tu devais te sentir trop mal, du coup, non ?
Ils me disent ça. Ils me disent, mais madame, mais vous voyez pas des mouches ? Vous avez pas mal au ventre, à la tête ? J'ai dit, non, j'ai rien, je comprends pas. Et là, ça fait quand même tilt. Je me dis, là, c'est pas bon du tout. Là, je commence un peu à paniquer. Ils font une échographie. Le bébé va bien, il bouge bien, le cœur va bien. Ils me font un monito, enfin, ils me contrôlent super fort. Là, il y a une sage-femme qui arrive dardard. Et elle m'engueule un peu parce que j'ai pas mon carnet et que je suis belge. Et que, voilà, ils ont pas connaissance. Enfin... En fait, elle a raison, c'est débile. Enfin, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. De nouveau, peut-être que c'est mon inconscient qui me disait « ça va aller ». Dans ma tête, toute cette grossesse, je me disais « ça va aller, ça va aller, ça va aller ». Et donc là, elle m'engueule, mais elle voit que je suis pas bien et qu'à la fois, je connais hyper bien mon cas, que je suis dans le milieu médical. Et donc, elle se calme et elle s'excuse même. Et elle me rassure, en fait, parce qu'elle voit que je... Voilà, et j'arrête pas de demander pour que mon mari puisse venir ou mon papa. Ils disent « mais non, on peut pas, madame, c'est le Covid, vous savez ». En plus, il y a une recrudescence de Covid en France à ce moment-là. Donc, je dis « ok ». Et là, elle fait venir une anesthésiste. Et je comprends pas. Je dis, mais pourquoi vous faites venir une anesthésiste ? Enfin, je comprends pas. Et là, elle s'assied, elle est hyper douce. Franchement, ouais, je voudrais tirer mon chapeau à l'équipe hospitalière de Montpellier parce qu'ils ont été pros et hyper bienveillants envers nous du début à la fin. Et donc, cette anesthésiste me parle hyper gentiment et elle me dit, est-ce qu'en Belgique, vous aviez déjà réfléchi à ce que vous vouliez pour votre accouchement ? Non. En fait, tous mes rendez-vous étaient après mes vacances. Donc, je restais 10 jours chez mes parents et puis on enchaînait rendez-vous anesthésiste, kiné prénatal, sage-femme, enfin, tout était prévu.
Ouais, t'avais pas encore vraiment eu le temps d'y réfléchir, mais t'envisageais quand même un certain type d'accouchement ou t'avais vraiment aucune idée ?
En fait, moi, j'ai été très traumatisée parce que ma maman m'a raconté de mon accouchement et son accouchement pour moi a été très traumatique pour elle, dans le sens que ça a duré des heures, qu'ils ont dû aller me chercher avec forceps et tout le bazar, que mon rythme cardiaque décélérait, enfin bref. Ça a été très très dur. Et donc dans ma tête, moi ça a toujours été un gros blocage. J'ai toujours eu très peur de ça, ce qui est fou hein, puisque je travaille là-dedans. Mais voilà, j'étais pas à l'aise. Donc moi j'étais à l'aise de me dire je vais à l'hôpital, je veux la péridurale et je veux surtout que ça aille le plus vite possible. Enfin, évidemment dans ce qui peut être vite, mais moi j'ai pas du tout de problème à ce que ce soit pas physio. Et même limite si ça se transforme en césarienne, c'est pas grave du tout. Tant que moi je vais bien et que mon bébé va bien. Ça c'était ce que j'avais en tête, et après bah oui forcément on allait en parler avec les professionnels quoi. Et par exemple par rapport à l'allaitement, j'étais pas décidée. Je savais pas ce que je voulais, je savais que j'avais envie d'essayer, mais qu'à la fois je voulais pas être trop contrainte. Et que je voulais que Baptiste puisse participer parce que tout bêtement, moi le sommeil c'est quelque chose d'hyper important et que je savais que j'allais morfler les premiers mois si je dormais pas assez et donc je voulais qu'on puisse se relayer. Et ça on était d'accord tous les deux et donc on avait en tête de faire peut-être allaitement mixte. Mais c'était pas décidé du tout, c'est comme le prénom. Oui, on avait un Basile en tête mais on avait aussi Ulysse par exemple. Et donc elle me parle de ça et je dis... Là j'ai la voix qui tremble, je sais pas, en plus je suis sans mon mari, enfin j'étais perdue quoi. Pour moi c'est comme si j'étais au-dessus de moi-même, au-dessus de la scène, je sais même plus très bien exactement comment. Et puis elle a refait, ils sont revenus avec un échographe, ils ont refait une échographie, tout allait bien. Ils ont refait les protéines dans les urines qui étaient au plafond, donc ça sentait vraiment pas bon, mais les plaquettes étaient encore bonnes. Donc là ils reviennent, ils me disent on va vous passer en salle d'accouchement. Et là, je dis...
Donc là, tu comprends que tu vas accoucher ce jour-là dans cet hôpital que tu ne connais pas.
Non. Franchement, c'est tellement choquant. Il faut savoir que là, j'étais à 31 semaines et 4 jours. Je me dis que c'est pas possible. Je, dans ma tête, c'est toujours pas possible. Qu'ils naissent maintenant, c'est... Enfin, non. En fait, et je leur dis à eux, Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà eu des alertes, comme je vous ai dit. Ça va aller, mon corps va faire le job. J'ai confiance en mon corps, ça va aller. Donc vraiment, dans ma tête, je conscientise pas.
Mais personne te dit cette phrase, genre « Madame, vous allez accoucher maintenant ».
Si, mais pas dans ces termes-là. Ils me disent « C'est possible que vous accouchiez bientôt ». Mais ils me disent, de nouveau, la même phrase que la gynéco du service grossessariste de Delta, « Un jour de passé est un jour de gagné ». Et donc là, je comprends que voilà. Parce que après, ils me passent dans cette salle d'accouchement, ils me mettent un antihypertenseur en intraveineuse, ça met du temps à fonctionner. Et là, je dis « Écoutez, vraiment, est-ce que mon mari peut venir, s'il vous plaît ?» Et là, ils disent « Oui, ok, on va faire une exception, il va venir ». Donc là, je me dis un gros ouf. Ils lui font un test Covid, il n'a pas le Covid, heureusement. Et tout de suite, ma tension baisse. Donc là, ils disent « Bon, bah, il fallait effectivement que vous soyez rassurés, tant mieux, il y a aussi le médicament. Écoutez, là, vos valeurs sont bonnes, on vous garde la nuit, on ne vous accouche pas maintenant. » Et là, je dis « Ah, mais trop bien, mais si ça marche, quand est-ce que je peux sortir de l'hôpital ?» Et là, la sage-femme, je crois qu'elle se dit « Mais elle est débile ou quoi, celle-là ?» Bon, elle voit bien que non, mais je pense qu'elle comprend qu'en fait, moi, je percute pas. Et elle dit « Mais madame, en fait, vous avez pas compris, on vous garde. Maintenant, c'est fini. Vous restez à l'hôpital toute la fin de votre grossesse et vous accoucherez ici, en France. » Et là, je dis « Mais non, moi, j'ai pas de mutuelle ici. » Enfin, de nouveau, l'aspect très pratico-pratique, quoi. Je pense même pas à moi, je pense... Non, on n'a rien, on n'a même pas d'habit de bébé, moi j'ai rien ici, enfin je... Non, c'est pas possible, non, je serai rapatriée. Et elle dit non, vous ne serez pas rapatriée, ça c'est sûr que non. Bref, on arrête là la discussion, il monte en chambre, il s'excuse parce qu'il n'y a plus de chambre dispo, donc on a eu de la chance. Dans notre malheur, c'est qu'ils ont une toute petite place dans une chambre commune, mais donc Baptiste ne peut pas rester. Et donc là, je suis mise dans cette chambre. Ils m'expliquent qu'ils vont me faire une piqûre dans la fesse pour développer les poumons de Basile au cas où. Et que le deal, c'est que je tienne 24 heures, puisqu'ils doivent faire deux piqûres. Donc ils font une première, et dans 24 heures, ils feront la deuxième. Et je dis, mais oui, évidemment, je vais tenir, il n'y a pas de stress. Voilà, de nouveau, je commence à faire des blagues et tout. Ils disent, mais c'est fou. Enfin, on n'a jamais vu ça. J'avais pas de maux de tête, j'avais pas de mouchette devant les yeux, j'avais pas de barre au niveau du foie, enfin plutôt de l'estomac. J'avais rien, quoi. Je pense que c'est mon mental qui a joué, parce que je commençais clairement, mes organes commençaient à déconner complètement, à lâcher, je pense, déjà à ce moment-là. Mais mon mental prenait le dessus, je pense, après coup. Enfin, je l'explique pas autrement, puisque j'aurais dû avoir tous ces symptômes. Bon, là, ma tension avait baissé, mais quand même, quoi. Donc bref, ils me font la piqûre, ils me préviennent que je vais peut-être avoir du mal à dormir, de par les émotions, forcément, mais aussi parce que c'est des corticoïdes, je pense, et ça excite un petit peu. Mais je dors bien, enfin relativement bien, je sens bien mon bébé, je me tourne sur la gauche, enfin voilà, je fais un peu mes principes que je dis à mes patientes, il bouge bien, etc., donc tout va bien. Le lendemain, Baptiste arrive à 8h tapante, on dépose mon plateau petit déjeuner, et avant ça, il faut savoir qu'à 6h du mat, je pense, ils ont fait une prise de sang de contrôle. Pareil, check pipi, tout le bazar. Enfin, ils m'ont checké quasiment toute la nuit, en vrai. Mais sauf que j'étais un peu à l'ouest, donc voilà. Et là, j'allais commencer à déjeuner et la médecin-chef arrive. Ils sont trois. Et elle crie « Ne touchez pas à votre plateau repas, on vous emmène ». Et là, je dis « Comment ça, on m'accouche ?» Mais non, je vais bien, j'ai pas de tension. On m'a pris encore ma tension et tout. Elle me dit « Non, non, écoutez madame, vos plaquettes ont chuté très fort pendant la nuit. Très, très fort. » Là, pour tout vous dire, on peut vous accoucher en césarienne d'urgence, mais que vous soyez consciente. Si on attend plus longtemps, vous serez inconsciente. Vous participerez pas à votre accouchement. Et donc là, je dis, on peut pas attendre. Et là, elle m'a dit, non, non, on ne peut pas attendre, c'est maintenant, quoi. Donc votre bébé va naître maintenant, enfin, dans les heures qui suivent. Et là, je dis, non, je veux pas, de nouveau. Et Baptiste se lève et il dit « Surtout, vous l'écoutez pas, on y va. » Lui, il comprend en fait que c'est ma santé qui va plus. Et là, je percute et je me mets à pleurer. C'est la première fois, si je me souviens bien, que je me mets à pleurer aussi fort, que j'en tremble et que je percute. Il a fallu ça, donc il a fallu arriver jusque là pour comprendre ce qui arrivait.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cet épisode. Mais vous l'aurez compris, le récit de Laure n'est pas terminé. La semaine prochaine, elle nous expliquera comment cet accouchement si soudain a ensuite donné lieu à un long parcours du combattant, celui de leur petit Basile, qui a traversé avec eux les montagnes russes de la prématurité. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors que vous soyez coparent, tata, grand-mère, papy ou proche d'un futur parent, n'hésitez pas à partager, liker les épisodes et à en parler autour de vous pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi mettre un cœur ou 5 étoiles sur l'appli d'écoute de votre choix. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un village entier pour élever un enfant, parce qu'on s'est senti trop souvent dépourvu face aux pleurs de bébé, parce qu'on ne savait pas que pleurer sans raison était tout à fait normal après un tel chamboulement, mais aussi parce qu'on ne savait pas qu'il était possible de générer autant d'amour pour de si petits êtres. Bref, parce qu'il y a mille et une raisons d'écouter Rita, le podcast belge qui compte bien vous aider à mieux vivre ce grand tourbillon de la vie.